J'ai repris totalement ce qui
se passe.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cet échange citoyen d'un parole aux auditeurs. Dans son dernier rapport rendu public le jeudi 15 septembre, l'ONG Amnesty International dénonce ce qu'elle qualifie de répression de la liberté d'expression sur fond de retard des élections en République démocratique du Congo. Selon le gouvernement, il n'y a pas de harcèlement ni de répression des dissidents politiques en RDC parce que la classe politique est à ce jour au dialogue politique. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 75 pour vos interventions en direct. Mais les débats se déroulent également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Eric Kidakala assure la mise en onde de ce programme réalisé et coordonné par Jérôme Ndiombo. Julie Fezabongonda est au standard et Pierrot et la Meiji vous les présentent sous la supervision de Julien Yamoni. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiotapis.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Selon Amnesty International, la RDC doit respecter ses obligations régionales et internationales en matière des droits humains, éviter de priver des personnes du droit à la liberté. Et puis, ils ont aussi la communauté internationale à pouvoir encourager les autorités à mettre fin rapidement à la répression, à accorder la parole à tout le monde. Et nous revenons dans ce sujet tout à l'heure. Nous aurons en ligne M. Mbosoko Diapanga, vice-ministre aux droits humains, avec qui nous allons faire le point sur la situation des droits de l'homme en RDC et particulièrement la situation et ce qui a été évoqué par Amnesty International. Rappelons quand même que plusieurs articles de la Constitution font allusion au droit de la population à manifester. Il y a l'article 23 qui dit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'article 25, la liberté de réunion pacifique et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Nous savons que la RDC est dans une période assez mouvementée avec beaucoup d'activités politiques liées au processus électoral. Et ensemble avec vous, quelles sont les pistes et les solutions pour arriver à garantir les libertés des uns et des autres pendant cette période? Et comme je le disais tout à l'heure, on aura d'un moment à l'autre notre invité qui pourra être avec nous en ligne. Mais en attendant, nous avons Kevin qui est en Bandaka dans la province de l'Équateur. Kevin, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Kevin.
Alors, d'emblée, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ce genre de rapports qu'a publié l'Amnesty International, j'ai dit sur votre page Facebook. Vous savez, le débat est tellement animé sur la page tel que vous allez constater qu'il y a moins de gens qui expriment leur désaveu vis-à-vis de ces rapports. Et ces désaveux est justifié par rapport au contexte actuel. Vous savez, il peut y avoir des violations des libertés individuelles et autres. On le sait déjà que ça existe. Et nombreux rapports ont été publiés parlant dans ce sens-là, mais les solutions adéquates ne s'y trouvent pas toujours. Mais avec les contextes actuels du dialogue politique, avec les tiraillements qu'il existe au camp du rassemblement, au camp de l'opposition qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au dialogue, ces genres de rapports risquent de diaboliser, je l'ai dit, de diaboliser l'opposition pour qu'ils ne puissent pas approuver les résolutions qui seront issues de ces dialogues. Donc, c'est un peu une sorte de provocation parce qu'à l'heure actuelle, le contexte est un peu particulier. Parfois, les gens citent le cas de Moïse Katumbi et de Charles Mwando Simba. Vous savez, donner dans la majorité, c'est un peu facile. C'est simple parce que lorsqu'on y est, on a tendance à sucer du miel sans être inquiété par les abeilles. Donc, vous pouvez tout faire sans pour autant être inquiété. Si nous autres, le G7 et Moïse Katoumi, n'avait pas quitté la majorité. Qui allait savoir que moi, le Simba, avait plusieurs nationalités.
Mm-hmm.
Il n'avait pas quitté. Mm-hmm. Qui allait savoir que mm-hmm. Moïse Katoumi avait des problèmes particuliers avec M. Stoupis. Aujourd'hui, on décrit l'affaire Stoupis, alors que Stoupis est en train de recouvrer tous ceux qui sont, tous ceux qui leur appartiennent dans leur famille. Il y avait les Kamouyam. Pourquoi on ne l'avait pas décrié avant? C'est seulement parce qu'il s'agit de Moïse Katoumbi et qu'il a quitté.
Alors, là, on peut dire que vous, Kevin, vous avez articulé votre intervention en deux. D'abord, vous n'êtes pas d'accord avec le rapport de l'Amnesty International. Vous estimez que dans les contextes politiques actuels où la classe politique est au dialogue, rappelons quand même qu'il n'y a pas toute la classe politique, parce qu'il y en a, oui, il y en a qui ne sont pas au dialogue. Vous estimez qu'avec ce genre de rapport, c'est là un risque de considérer et vous, soit de discréditer les discussions qui se déroulent. Mais d'un côté aussi, vous venez sur des cas que vous avez évoqués, qui sont considérés comme des cas purement privés, qui n'ont rien à faire avec l'actualité politique. Mais dans la globalité, pour vous, dans un contexte actuel, qu'est-ce qui doit être fait pour que les libertés des uns et des autres soient garanties telles que le veut la Constitution?
Alors, il ne s'agit que de règles normales, il ne s'agit que de préalables normales qu'un État des droits peut prendre. On dit tantôt que l'état des droits, c'est d'abord l'existence de lois, l'existence des normes juridiques d'un côté et de l'autre côté les respects. Quand il n'y a pas les respects, il faut qu'il y ait des sanctions. Alors, lorsque dans de telles manifestations, prenons par exemple les manifestations qui sont prévues par les rassemblements aujourd'hui, ils sont là pour manifester pacifiquement. Mais lorsqu'il y a des violations, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a la police, c'est juste pour durer leur manifestation au cas où il y aura des rapages. Mais pour poser des préalables, je dirais que ça rentre directement dans les cadres d'un État démocratique responsable. C'est-à-dire qu'on doit être en mesure de prendre des dispositions tendant à valoriser ou soit à promouvoir les libertés individuelles.
Mm-hmm.
Ça, c'est dans les cadres de tout État démocratique normal. Donc, c'est à l'État de fournir des efforts
mm-hmm.
pour qu'il puisse promouvoir...
Promouvoir les libertés publiques, les libertés individuelles. Merci beaucoup, Kevin.
À mon avis, ce n'est pas le moment...
Oui. Voilà. Pour vous, le moment n'est pas indiqué pour avoir le rapport comme celui d'Amnesty International, mais vous estimez qu'il revient à tout État de pouvoir assurer la protection de libertés publiques, les libertés individuelles, l'encadrement des manifestations. Mais aussi, vous avez évoqué le fait qu'on ne peut pas faire l'amalgame entre ce qu'on peut considérer comme harcèlement politique, mais aussi des affaires qui sont privées, par exemple, au niveau de la justice. Merci beaucoup, Kevin et Joël. Vous êtes à Kisangani. Vous avez suivi ce que Kevin vient de dire tout à l'heure, que ce n'est pas le moment qu'on ait de rapport où on estime qu'il y a répression des libertés en RDC, alors qu'il y a une dynamique de discussion aujourd'hui au sein de la classe politique congolaise. Alors pour vous, comment on peut arriver dans une période comme celle-ci à garantir les droits des uns et des autres tels que dit dans la Constitution, Joël?
Oui, bonjour d'abord.
Bonjour.
Oui, je viens de suivre scrupuleusement, avec attention, le premier intervenant à ce sujet. En ce sens, si vous essayez un peu de bien constater, la majorité des internautes ne sont pas d'accord avec les rapports en question. Simplement pourquoi? Parce que le même cause produit le même effet. Bien qu'il y ait des genres de rapports qui souvent ont été publiés, mais les posters des répressions en question ne sont jamais inquiétés. Et pour moi, ce qu'il faudrait faire, notre gouvernement, parce que c'est un constat amer qui s'est dégagé au niveau de toute l'Afrique centrale, c'est comme si nous sommes en retard en matière de démocratie par rapport à toutes les autres sous-régions de l'Afrique. Moi, je pense que quand il y a une majorité qui existe, il faut qu'il y ait aussi une opposition qui puisse exister. L'opposition, en quelque sorte, fait le contrepoids. Et moi, je pense que si la majorité accepte d'avoir l'opposition, ça va leur permettre de bien travailler. Et cela dépendra du comportement de notre gouvernement. Parce que moi, je ne vois pas comment un gouvernement peut travailler sans opposition. L'opposition est là pour essayer de relever les imperfections que la majorité est en train de commettre et quitte à la majorité de voir là où ça n'a pas marché pour qu'elle parvienne à mieux faire. Maintenant, dans notre pays, on assiste à un théâtre où on ne veut pas à ce qu'on ait des opposants. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer? On peut s'évaluer parce qu'il y a une auto-évaluation qu'on peut faire. Mais il y a aussi l'évaluation que les autres peuvent faire, qui est aussi importante pour le bon fonctionnement des institutions de notre pays. Moi, je pense que notre gouvernement puisse se comporter en responsable pour que l'espace soit laissé aux opposants afin que des bonnes idées puissent se dégager. Parce que c'est un constat amer qui s'est dégagé en Afrique centrale. C'est comme si on n'avait pas de la démocratie. Donc, c'est un peu ça.
Merci.
Si le Congo donne le temps, je pense que ça sera mieux pour le reste de notre sous-région.
Merci beaucoup, Joël. Vous estimez qu'il revient au gouvernement de pouvoir laisser aussi l'espace à l'opposition, de pouvoir s'exprimer, ça peut faire le contrepoids. Et vous auriez aimé que cela puisse partir de la RDC pour pouvoir entraîner ces comportements des démocraties dans toute la sous-région. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons en ligne M. Mbosso Kodjapuanga, vice-ministre aux droits humains. Monsieur le vice-ministre, bonjour et merci surtout d'avoir accepté notre invitation et vous êtes déplacer un peu pour pouvoir discuter avec les auditeurs autour de cette question.
Merci beaucoup. Merci, je suis disponible.
Alors, oui, il y a eu quand même ce rapport d'Amnesty International qui estime que non, depuis un certain moment, il y a ce que l'Amnesty appelle une campagne de répression des opposants politiques, mais le porte-parole du gouvernement a dit non, mais il n'y a pas un harcèlement aujourd'hui envers les dissidents politiques parce qu'il y a des discussions au niveau de la classe politique ou l'opposition, on peut le dire, une partie de l'opposition et la majorité discute. Mais est-ce qu'au niveau de vous qui êtes dans la gestion des droits humains, quel est le constat que vous faites aujourd'hui par rapport dans un passé récent et aujourd'hui en termes d'amélioration de la situation des droits humains, surtout en ce qui concerne l'expression politique aujourd'hui?
Merci de la question. Je dois affirmer qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a des avancées, des progrès significatifs en matière de promotion, de protection des droits de l'homme. Nous venons de loin. Les gens ne croyaient pas que le pays pourrait être réuni, que le droit et les libertés de personnes pourraient être respectées. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des progrès, il y a des avancées. Les hommes de bonne foi et le haut commissaire aux droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples l'ont affirmé dans les différents rapports. Certes, il y a l'Amnesty International, tout comme il y a d'autres organisations des droits de l'homme qui formulent des critiques. Certaines de leurs critiques ne sont pas fondées. Elles ne sont pas fondées du fait que les sources de leurs informations ne sont pas fiables. Ensuite, les critiques ne sont pas données avec beaucoup de certitude. Tout est au conditionnel. Nous, comme gouvernement, nous avons la mission d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous avons besoin des informations fiables. Nous avons besoin de connaître les victimes. Nous avons besoin de connaître les noms des auteurs. Parce que nous avons mission pour protéger les droits de l'homme, pour promouvoir les droits de l'homme. Nous avons l'obligation de sanctionner tous les pourfendeurs de droits humains. Tous ceux qui violent les droits de l'homme sont poursuivables. Et à chaque fois que nous avons des informations, nous instruisons le procureur général de la République, l'auditeur général des forces armées et de la police nationale pour que des enquêtes soient menées. Il y a des officiers généraux, des hommes politiques qui ont été sanctionnés pour avoir violé gravement le droit de l'homme dans ce pays. Nous sommes un des rares pays les plus répressifs en matière de droits de l'homme dans ce monde.
Mmh. Mais si nous restons dans ce volet, l'expression des libertés publiques pendant cette période électorale, on peut utiliser ainsi, Amnesty est revenu plusieurs fois sur des cas des manifestations publiques qui ont été interdites en province, alors qu'à la même date, elle s'est déroulée à Kinshasa, estimant que le fait qu'on autorise par exemple une manifestation publique à Kinshasa et que la même manifestation soit interdite, que ce soit à Lubumbashi ou à Kananga ou à Mbujima ou ailleurs, c'est là qu'on se tue une façon inégale de pouvoir traiter l'opposition ou soit de permettre à ce que les uns et les autres puissent exprimer leur opinion pendant cette période.
Voilà, je dois vous dire que le respect de l'exercice de droit pour chaque citoyen, pour tout le monde, procède de respect d'abord de droit, de loi. Il faut respecter le loi et il faut garantir en même temps l'ordre public. Quand les autorités provinciales, gouverneurs, administrateurs du territoire, nos vaillants éléments de la police nationale constatent qu'à un moment donné, dans un territoire donné de la République, l'ordre public n'est pas très bien garanti, que les manifestations peuvent tourner peuvent conduire à la perturbation de l'ordre public, l'autorité compétente est habilitée à les interdire. Parce que la paix a primauté sur toute autre activité. Voilà, donc, si il y a présomption de perturbation de l'ordre public, l'autorité n'est pas obligée d'autoriser la manifestation.
Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est quoi les manques de discussion entre ceux qui écrivent à l'autorité qui informe, parce qu'on parle actuellement de ces régimes de l'information, ainsi que l'autorité, on l'a vu plusieurs fois à Kinshasa, le gouverneur de la ville a invité les organisateurs des manifestations pour discuter en amont sur l'itinéraire, de quelle manière on doit encadrer. Mais la plupart des cas aussi, ce qui arrive souvent en province, c'est que les organisateurs ont écrit, mais bien avant même qu'il y ait des discussions avec l'autorité locale, directement il y a une lettre interdisant, alors qu'on n'a pas eu des cas de concertation en amont pour savoir quels sont les comportements qu'il faudrait adopter pour pouvoir encadrer ces manifestations. Est-ce qu'au niveau du ministère, y a-t-il de séances, des sensibilisations, des discussions avec les uns et les autres pour qu'on puisse chaque fois avoir une ligne de conduite quand on sollicite une manifestation aujourd'hui sur la place publique?
Nous avons des séances de travail en matière de manifestations publiques avec les autorités de la police et de l'administration. C'est l'autorité qui est sur place qui apprécie. Nous nous donnons des règles générales comment le droit des manifestants doit être assuré. Et l'autorité qui est sur place apprécie, examine la situation sécuritaire de son entité. Et le gouverneur de la ville le fait régulièrement. Il est très élégant, il est très démocrate. Mais vous comprenez que les autorités qui sont en province, souvent, n'ont pas la même facilité de dialoguer avec des amis qui veulent manifester. Il y en a qui sont parfois agressifs. Certains manifestants sont agressifs, d'autres ne le sont pas. Quand le dialogue n'est pas possible, l'autorité, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la paix, pour l'intérêt de l'ordre public, et pour les manifestants, et pour l'ensemble de la population, il empêche, il écrit, il dit non, je n'estime pas nécessaire que vous puissiez manifester. Dans la plupart des cas, les autorités à l'intérieur ont demandé aux manifestants de reporter, de postposer parfois la date des manifestations. Voilà, c'est ce qui se passe très souvent. Alors là, naît parfois un climat d'incompréhension. Et des organismes, de certains organismes internationaux des droits de l'homme ou nationaux des droits de l'homme et les autorités compétentes de la territoriale. Mm-hmm. Voilà. Ce qui se passe à la fois, mm-hmm. qui est très souvent mal interprété.
On va revenir à vous. Il y a les auditeurs qui voudraient contribuer dans cet échange. Alain et Thaïs Firo, confiance à TIMPC. Comment alors arriver, selon ces rapports d'Amnesty International, à garantir l'expression des libertés publiques pour les uns et les autres pendant cette période? Alain, bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde, bonjour à l'invité.
Et quand on regarde les réactions de l'ensemble des auditeurs sur la page Facebook, beaucoup n'ont pas été contents du rapport d'Amnesty, mais par ailleurs, il y en a aussi qui souhaitent qu'il y ait quand même des avancées par rapport à l'expression des libertés publiques pendant une période cruciale comme celle-ci. Alors comment on peut arriver à évoluer sur ces plans de l'expression des libertés publiques, Alain?
Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même saluer la première intervention que je considère suffisamment pertinente. Il m'a permis d'ailleurs de renforcer ce que j'avais dit sur votre page Facebook.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est que vrai, de mon point de vue, il n'y a pas de liberté sans ordre. Et il n'y a pas d'ordre sans discipline, il n'y a pas de discipline sans sanction, sans loi. Ce qui est important, ce que nous devons reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a enregistré, effectivement, comme l'a dit le vice-ministre, des avancées. Nous n'avons pas connu cette liberté que nous vivons aujourd'hui, sans même qu'il y a encore des déviations, mais au moins, ce qui est important, nous sommes dans un processus nous rassure dans une certaine mesure, étant donné qu'aujourd'hui, il y a une liberté que moi je considère assez déviationniste, qui va au-delà de quoi de la réglementation, mais ce qui est important, chaque Congolais aujourd'hui a la latitude de dire ce qu'il pense. Notre mission déjà c'est une preuve éloquente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui interviennent, qui disent ce qu'ils pensent, mais personne n'est sanctionné pour avoir dit ce qu'ils pensent. Mais nous devons aussi savoir que au-delà de notre liberté, il y a aussi la liberté des autres. Au-delà de notre liberté des autres, il y a aussi le droit de survivance de l'État. Après, si je vois un pays tel que la France, qui est réputé être le pays le plus démocratique, entre guillemets, partant déjà de l'authentique, égalité, liberté et fraternité. Ce sont des valeurs qui dirigent cette France, mais quand il s'agit de préserver l'unité nationale, quand il s'agit par exemple de protéger la sûreté de l'État, et bien les libertés individuelles ne peuvent pas avoir une surveillance par rapport à ce devoir sacré de préserver l'État. C'est que moi je sais généralement, c'est comme le ministre l'a dit, et même le premier intervenant, lorsque le parti politique vient pour solliciter ou informer l'autorité sur leur manifestation, et bien ils ont des attitudes assez figées, c'est-à-dire ils veulent assez que leur manifestation ait lieu le même jour, aux mêmes heures. Et pourtant, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi jouer en leur faveur ou en leur défaveur, qui sont à la maîtrise de l'administration. Il nous est arrivé, quand j'étais encore dans ces genres de mouvements, il nous est arrivé d'organiser une activité à Kinshasa, alors qu'il y avait déjà une information qui circulait disant qu'il y avait notre parti qui avait l'intention de saper ou carrément de saboter l'activité. Et nous avons fusillé le fait que la police avait interdit, et par la suite, nous avons compris que ce qu'il y avait des infiltrés qui voulaient à ce que notre manifestation ne résiste pas.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition, mais qui ne voulaient pas voir une activité organisée par une partie de l'opposition réussir. Mais au final, ce qui sera le perdant, c'est la population. Ce que nous devons savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre souci, c'est de promouvoir cette liberté. Et cette liberté doit aussi être encadrée au risque de créer l'anarchie. Nous ne pouvons pas continuer comme ça à tenter les institutions de la République ou carrément à déranger le fonctionnement de l'État, parce que tout le monde n'est pas membre de nos partis politiques. Il y a des gens qui ne veulent pas d'une activité, il y a d'autres qui en veulent, mais au final, l'État doit voir si cette activité ne va pas mettre en mal le droit des autres. Mais malheureusement, dans plusieurs cas, nous n'arrivons pas à tenter cette volonté. Donc, quelque part, je me dis, les organisateurs ont tendance à tenter, à pousser la police à commettre des erreurs. Comment voulez-vous, vous qui avez reçu une autorisation de manifestation, allant par exemple du palais du peuple jusqu'à tel point, vous voulez déborder, alors que la police avait eu des instructions précises sur votre acheminement.
Et là, on peut dire que ça, c'est nouveau. C'est nouveau, là, c'est que le ministre aussi disait tout à l'heure qu'il y a eu des discussions en amont entre les organisateurs des manifestations, la police et l'autorité de la ville. On le voit de temps en temps à Kinshasa, cela arrive, mais on souhaiterait que ce soit ainsi aussi ailleurs, quand même la configuration n'est pas la même. Alors, vous avez quand même évoqué le fait que on doit avoir des attitudes qui évoluent. Des fois, on a des attitudes figées quand on veut organiser une manifestation. Et dans tout ça, il faut aussi considérer qu'il y a les droits des autres aussi, parce que tout le monde n'est pas membre, par exemple, de votre structure qui organise la manifestation. Mais vous estimez que beaucoup de choses ont dû évoluer, mais c'est un processus. Merci, Confiance. Vous êtes à Kinshasa, dans le Congo central. Bonjour, Confiance.
Bonjour, Mbote Djambo, à tous les occupants de la radio de la paix.
On vous écoute, Confiance.
Mais je pense que les questions de liberté publique sont des questions de très haute sensibilité de tous les deux côtés. Je n'ai jamais vu un rapport de l'Amnesty International condamnant le gouvernement congolais, mais accepté par le gouvernement congolais. Ça n'existe pas. Il est vrai que c'est difficile de tout accepter. Bon, je suis content que monsieur le ministre soit en ligne pour qu'il réponde à certaines de nos questions. Mais lorsque on viole les lois, les lois de liberté, on viole les lois dans le sens des libertés publiques. Et il est vrai que ces gens-là qu'on arrête aujourd'hui ou demain, parce qu'ils veulent dénoncer, ils veulent dire tout haut ce qui est en train de se passer. Notre gouvernement est comme une machine programmée pour lutter contre tous ceux qui lèvent la voix pour dénoncer les antivaleurs, surtout si celles-ci sont causées ou sont provoquées par l'équipe dirigeante. Moi, je voudrais faire remarquer, par exemple, priver les militants de la lucha de plusieurs mois de liberté pendant qu'ils réclamaient quelque chose de vrai en les accusant de terroristes. Moi, je reçois ça, c'est qu'aujourd'hui, le ministre, qui est le ministre des droits humains, puisse aussi poursuivre tous ces gens qui ont fait arrêter ces gens qu'on reconnaît aujourd'hui n'est pas être des terroristes. Parce que nous avons vu, nous avons entendu sur les ondes qu'ils étaient des terroristes. Mais aujourd'hui, que le chef pense qu'ils n'étaient pas des terroristes, ce sont des Congolais qui réclamaient leurs droits. Qu'est-ce qui a été fait si réellement on respectait le droit, si réellement on respectait les libertés publiques, si réellement on prétendait faire ce que le ministre est en train de dire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas poursuivi les gens qui les ont arrêtés illégalement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas poursuivi les gens qui en principe les ont accusés de terrorisme? Donc, il est vrai que certaines choses se font, mais avant d'interdire aux gens de ne pas manifester, de ne pas réclamer ce qu'ils veulent, il serait mieux de commencer par respecter les lois. Moi, j'aurais souhaité, par exemple aujourd'hui, si réellement nous avons des droits humains dans ce pays, qu'on commence à condamner, à sanctionner, et qu'il faut en sorte que les gens manifestent. On s'attaque souvent aux gens qui manifestent, mais on oublie de s'attaquer aux gens qui font que les gens manifestent. Je pense que l'auteur du crime, c'est celui qui n'a pas respecté le droit. Moi, je pense que le respect des droits humains commence aussi par le respect de notre propre constitution. Parce que si nous respectons notre constitution, nous avons 90% de ne pas avoir les gens sur la rue qui vont réclamer que la constitution soit respectée. Donc, une fois qu'on est dans la majorité, je suis content que mon prédécesseur ait parlé des choses qui sont dénoncées aujourd'hui. On apprend qu'il y a des gens qui ont de double nationalité pendant que, quand ils étaient dans la majorité, ça n'a pas été dit. Donc, pourquoi cette politique-là de museler ceux qui veulent dire tout haut et qui ne voient pas? C'est ça aussi le problème. Je pense que ce rapport-là, il ne peut être mauvais que pour des gens qui sont accusés et qui reconnaissent avoir fait quelque chose. Sinon, si le rapport ne reste qu'un rapport, et je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens peuvent s'agiter. Il est normal que les gens qui sont là, ils sont payés pour ça, ils font des enquêtes, ils ont de preuves.
Et pour vous, Confiance, vous avez d'abord le premier volet, vous estimez que le respect des gens qui manifestent, c'est parce qu'il y a c'est une réaction à une action. Pour vous aussi, on agit en amont en respectant les lois du pays de la Constitution, on n'aura pas des gens qui vont aller manifester pour protester. Ça, en fait, d'un côté, vous avez aussi cette impression, comme le dit Amnesty International, dans le dit Amnesty dans ses rapports, qu'il y a eu cette volonté de pouvoir museler ceux qui se mettent en désaccord avec la classe dirigeante. Mais vous, vous auriez aussi souhaité que ceux qui sont accusés d'avoir violé les droits des autres soient punis. Et vous avez évoqué les cas de militants de la Lutte qui ont été libérés récemment parce qu'ils ont été arrêtés en les accusant d'être des terroristes pour déstabiliser les institutions et qu'ils soient libérés après. Il aurait été mieux de poursuivre ceux-là qu'ils avaient arrêtés. On pourra accorder la parole tout à l'heure au ministre. 081-890-7340, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Au Capidance, je rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, graffiti d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Dagou. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, les gamins de 19h à minuit.
Alors, monsieur le vice-ministre, vous avez suivi nos auditeurs au-delà de ce qu'ils ont avancé comme idée dans cette émission. Mais il y a aussi cette question des perceptions. Quand, par exemple, on arrête quelqu'un, l'opposition dit que c'est un musulman ou une répression. Du côté du pouvoir, on estime que non, voilà, on a violé la loi. Et dans cette perception, il est difficile qu'on puisse se mettre d'accord sur ce qui a été fait par le gouvernant et ce que pense l'opposition dans plusieurs cas. C'est pourquoi il y a des cas des gens qui sont arrêtés. Les uns estiment qu'ils sont arrêtés, c'est une répression. Les gens, le pouvoir estime que non, ce sont les arrestations ne sont pas liées au fait qu'ils sont des politiciens. Voilà, dans cette configuration, il est souvent difficile de pouvoir se mettre d'accord sur la ligne de conduite à pouvoir adopter. Et mais vous pouvez placer un mot à ce que les auditeurs venaient de dire tout à l'heure.
Merci, merci beaucoup. Voilà, avant de répondre aux questions des auditeurs sur Radio Capi et Litrice, je voulais apporter une précision importante. Dans ce pays, il y a depuis que le président Joseph Kabila Kabange est au pouvoir, depuis qu'il a matérialisé la démocratisation du pays, il existe 148 chaînes de télévision et organes de presse écrits. Vous avez 26 000 ONG qui existent. Vous avez plus de 400 partis politiques qui existent. Toutes ces organisations politique et sociale fonctionnent et exercent librement leurs activités sans entrave. Vous avez mis aujourd'hui plusieurs organes de presse écrites. Vous avez vu les titres. Ceux qui veulent s'exprimer, ils peuvent s'exprimer à travers des chaînes de télévision, des radios et des journaux. Ça, c'est l'effervescence de la démocratie en République démocratique du Congo. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et moi qui vous parle, j'appartenais à un régime où vous savez ce qui était, c'était un parti unique. J'ai été un des grands responsables du MPR. Mais aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Donc je voulais apporter cette précision qui est détail pour que les gens comprennent combien de partis politiques que nous avons. Et ces partis fonctionnent à travers le pays. Ils participent aux élections. Ils concourent au suffrage universel. Ça, je voulais apporter cette précision. Maintenant, je reviens aux préoccupations des auditeurs et auditrices. Nous sommes tous, qu'on soit au pouvoir, qu'on soit à l'opposition, qu'on soit en dehors du pouvoir, du fait politique. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de loi dans ce pays pour des dirigeants et des lois pour les autres citoyens. Dans un état de droit, c'est la primauté de la loi. C'est la primauté du droit. Des autorités ont été arrêtées. Je l'ai déjà dit, vous les connaissez. Ça ne sert à rien que je cite leurs noms. Que ce soit sur des infractions de droit commun, que ce soit sur d'autres infractions. Il y en a qui ont été arrêtés et il y en a qui sont jusqu'à aujourd'hui en prison. Ils existent, ils sont là. Et les autorités que nous sommes les premiers à prêcher par l'exemple, c'est-à-dire à respecter la loi, à respecter le droit des autres. Ça, c'est un devoir qui incombe à celui qui exerce une fonction. Dans une république, dans un état de droit, au nom de la population. Ça, c'est un devoir. Les compatriotes qui sont au courant, qui savent que tel a fait ça dans tel milieu, ils ont le droit de porter plainte, ils ont le droit d'informer les autorités compétentes. Quand ces autorités-là ne vont pas agir, alors que les gens peuvent se demander, voilà, nous avons porté plainte pour tel fait à telle époque, il n'y a pas eu de réaction. Mais nous ne devons pas faire de procès d'intention. En ce qui concerne le respect des libertés d'expression, je vais vous donner quelques exemples sur les organes de presse. Mais l'exercice de nos droits, je l'ai dit, procède du respect d'abord de loi. Celui qui respecte la loi de son pays se met à l'abri de poursuites. Ça, c'est la règle que nous devons tous d'abord respecter. Ceux qui violent la loi ont leur place devant la justice. Je ne dis pas en prison, parce que pour aller en prison, soit on est en prison à titre préventif, soit on est en prison parce qu'on a été condamné, parce que les faits ont été établis. Mais pour le reste des cas, ceux qui veulent s'exprimer à travers des manifestations, ils doivent respecter la loi. Vous ne pouvez pas aller manifester, exercer votre droit, et en même temps, vous procédez à des pillages, à des casses. Ça, ce n'est plus de la manifestation. Ça devient de l'agression. Là, vous commettez des infractions. C'est ça que nous devons nous abstenir. Quand on est autorisé à manifester, à poser de tels actes. Ensuite, je vais donner un exemple.
Oui, allez-y.
Oui, je donne un exemple. Il y a eu dans ce pays, à peu près les statistiques que j'ai, 20 demandes de manifestation des frères de l'opposition. 18 ont été autorisées. 2 ont été interdites. Sur les 18 autorisées, 2 se sont transformées en pillages. Alors, l'Amnesty International ne peut pas considérer que sur 20, deux manifestations ont été interdites, qu'il n'y a pas de liberté d'expression.
Mais ça va parce que vous avez cité Amnesty International, oui, mais vous avez cité Amnesty International et le revenu sur l'accès aux médias aujourd'hui. Rappelons quand même que ce soit la Constitution ou la loi portant statut de l'opposition, c'est puis dans l'article 13 que les membres de l'opposition politique ont droit au libre accès à un traitement égal par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions, mais aussi la couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par le média public. Mais alors l'opposition s'est plaint chaque fois qu'ils n'ont pas accès d'une manière égale aux médias publics et que même les activités, que ce soit de la majorité, ne sont pas couvertes de la même manière que les activités des partis politiques de l'opposition au niveau du média public, parce qu'Amnesty International est revenu aussi sur ces cas. C'est là la raison aussi. On peut avoir nombreux, beaucoup de chaînes qui fonctionnent, mais qui n'ont pas les mêmes traitements équilibrés de l'activité politique, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité.
Les médias, je prends par exemple, il y a combien de médias publics ici? Vous avez la RTNC, Radio et Télévision. En dehors de ça, qu'est-ce qui existe pour comme médias publics? Tout le reste des chaînes sont privées. L'État n'a que la RTNC. Les autres chaînes sont des chaînes privées. Et même à la RTNC, nous, comme ministres, membres du gouvernement, nous payons seulement les activités du gouvernement qui ne sont pas facturées. Mais on reste quand même quelque chose à la RTNC pour son fonctionnement. Mais le reste d'activités, même nous, nous payons à la RTNC. Nous pouvons présenter des factures. Il n'y a que la RTNC. Quels sont les autres médias publics?
On s'est dit qu'on aurait souhaité que la RTNC.
L'accès à l'opposition.
Oui, on estime que la RTNC est
le média public. Je vois les amis de l'opposition animer des émissions sur le plateau de la RTNC. Télévision, je vois. Là, c'est un problème.
Bon,
la loi
comme...
est là, on va l'appliquer.
Comme disait tout à l'heure Alain, que c'est un processus, on peut bien continuer. Jean, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, Amnesty a souhaité, dans les recommandations, que la RDC fournisse encore beaucoup d'efforts dans ces processus de libre expression pour arriver à garantir les libertés individuelles, publiques, des uns et des autres, surtout pendant une période comme celle-ci. Alors, pour vous, comment on peut s'orienter pour arriver vraiment à garantir ces libertés?
Oui, je pense... Ce qu'on peut faire, c'est en premier lier le respect des lois, c'est ce qui peut nous aider à garantir le respect de la liberté. Mais ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, c'est que quand il s'agit de manifestations, il y a deux poids, deux mesures du côté de nos dirigeants, puisque quand il s'agit d'une manifestation de l'opposition, là, il y a déjà des suspicions. On pense que quand il y a une manifestation de l'opposition, il y aura des rapages, il y aura casse et consorts, et vous allez trouver que on va aligner des chars de combat, des policiers et consorts, alors que quand il s'agit d'une manifestation du pouvoir, ça ne sera pas le cas. C'est là que on peut voir qu'il n'y a pas respect de la liberté d'expression dans notre pays.
Merci beaucoup, Jean. Et vous avez évoqué les cas des suspicions. Rappelons quand même qu'on a eu dernièrement une émission qui était consacrée, on avait reçu le porte-parole de la police, hein, après ce que tout le monde avait félicité, que ce soit l'accueil du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, quand il est revenu de Belgique, ainsi que la manifestation qui a été organisée presque trois jours après. Et vous estimez que le problème, c'est plus la suspicion quand il s'agit de l'opposition. On estime qu'il y aura de la casse et des débordements. Et quand il s'agit de la majorité, on n'a pas la même suspicion. Merci beaucoup, Jean. Mais vous êtes revenu à ce que tout le monde a souhaité, qui est le respect des lois. Madame Joséphine, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Ah, bonjour, Radio Kapia. Merci de m'avoir passé la parole.
On vous écoute.
Je vais dire ceci. Le droit humain. Je vais demander au ministre de me dire combien d'argent il dépense par jour par prisonnier. Tout Congolais qui est prisonnier, un Congolais qui est prisonnier, un point, je le vois comme citoyen congolais. Combien il dépense par jour dans des prisons? Deuxièmement, est-ce que quelqu'un qui est prisonnier, il n'a pas droit à la vie? Parce que nous parlons de droits humains. le respect des droits humains. Dans le prison congolais, les gens meurent, les prisonniers meurent. Et puis dans l'émission Okapi Service aujourd'hui, il y a une organisation non gouvernementale, une femme qui est passée pour parler des enfants de Nyunzu. Hein, les enfants, malgré qu'ils ont construit deux écoles, on demande même qu'on paye 500 francs, qui n'est même pas un dollar. Les parents n'arrivent pas à payer dans ces coins du pays. Moi, je vais demander au monsieur le ministre, quelle est la valeur qu'ils apportent à un citoyen congolais qui vit, par exemple, à Kinshasa, qui vit à Kalemi, qui vit à Lubumbashi, par rapport aux milieux ruraux, comme Nyunzu, Kabalo. Quelle est la différence? Et s'il y a une différence, pourquoi? Parce que tout Congolais, un citoyen d'un pays a droit à la vie, a droit à l'instruction. C'est naturel, ces droits doivent passer. Et puis, par rapport à la politique, est-ce qu'ils se sont déjà demandé pourquoi il y a des manifestations, beaucoup de manifestations? Nous savons que les gens ont droit à manifester. Comme ici aux États-Unis, tu peux manifester seul. Tu n'es pas content de quelque chose, le bus qui n'est pas venu pour prendre ton enfant, tu peux aller manifester. Mais au moment où on parle de groupe, il y a des gens, beaucoup de groupes qui manifestent. Et ils se sont déjà posé la question, pourquoi?
Merci Madame Joséphine. Au-delà des libertés publiques que nous avons évoquées, hein, vous êtes revenu pour demander au ministre des Droits humains. C'est un problème lié aux droits des prisonniers, la question de savoir comment sont-ils traités. Mais vous avez demandé au ministre, ils ont déjà posé des questions, pourquoi les gens manifestent en groupe. C'est que vous avez raison, confiance, qui disait tout à l'heure, si les gens manifestent, c'est parce qu'il y a un problème. Professeur Ilias, vous êtes à Polésie, bonjour.
Bonjour, merci pour la parole que vous m'accordez.
Je
voudrais simplement dire que le problème tel que nous l'avons sur le plan des droits humains, il faut reconnaître qu'il y a encore quelque chose à faire. Hein. Il y a des efforts qui sont fournis, mais il reste encore à faire. C'est un processus comme l'un de nos amis l'a dit. Mais je voudrais aussi dire quelque chose, mettre un bémol dans ce que le vice-ministre a dit tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas, à mon humble avis, établir une certaine comparaison entre le degré de liberté d'expression dans un régime totalitaire, comme il a été du temps du président Mobutu, et dans le système démocratique. Ce sont deux réalités différentes. C'est que, déjà, dans un système totalitaire, on sait que là-bas, on va museler les opposants, il n'y aura pas assez de liberté. Ça, c'est comme cela. Mais je reviens à ce que l'on disait tout à l'heure. Je crois que nous avons un problème de culture politique. Le sens même de la démocratie et les acteurs en présence. Et pour moi, je sens toujours que ceux qui sont au pouvoir jouent un certain rôle tel que, dans leur façon de voir les choses, l'opposant, c'est un ennemi qu'il faut taire. C'est pas celui, un collaborateur, un agent avec qui il faut traiter ou une espèce de pare-choc ou une lampe de moins qui nous alerte et je sais qu'il ne va pas et que nous devons améliorer. Mais de l'autre côté aussi, il y a l'opposition. C'est pratiquement une structure qui se considère comme ennemi et qui ne voit que le mal que le pouvoir connaît et chaîner dans le sens d'appréciation pour aller vers l'avant ou pour construire ensemble. Donc, c'est cette situation. C'est ce qui fait qu'on se prête mutuellement des intentions et la rareté d'autorisation de manifestation, c'est qu'à un certain moment, quand une occasion est offerte, quand il y a une acceptation, une autorisation, on capitalise ce moment pour faire du n'importe quoi. Là, on doit le reconnaître. Et même Amnesty International, s'il y a équité dans le travail qu'il est en train d'élaborer, j'aurais aimé qu'un jour, on puisse aussi dire le méfait de certaines réactions de partis politiques d'opposition lors de leurs manifestations. Là, ce sont des choses qu'on devrait observer comme telles. Mais j'estime aussi un autre aspect. Il y a, comme je le disais, problème de culture, l'information, la sensibilisation des partisans, au sein des partis politiques. Je crois que le parti politique a cette mission d'informer les membres, leur dire ce qu'ils doivent afficher comme attitude dans telle ou telle autre circonstance. Aujourd'hui, nous parlons du régime d'information par rapport à la liberté de manifestation. Alors, est-ce que les partisans ont déjà entériné, ils ont déjà fait sienne cette culture pour savoir comment il faut se comporter, comment il faut agir. Et aussi, un autre aspect que nous n'allons pas oublier, le rôle de la police nationale. Aujourd'hui, heureusement, on parle de la police de proximité, c'est un processus qui n'est pas encore arrivé. C'est que les manifestants, quand ils voient la police, la première réaction de se dire, ce ne sont pas ceux qui viennent nous sécuriser, nous accompagner, mais des gens qui viennent nous frapper, nous museler. Donc, on devra créer des cadres, comme le vice-ministre l'a dit, des cadres de rencontre et essayer de changer cette mauvaise considération.
Et d'ailleurs, professeur Ignace, c'est pourquoi vous suivez depuis plus de deux semaines maintenant. Il y a des émissions sur les antennes de Radio Capi, la police est reçue, il y a eu l'inspection générale, maintenant avec les commissariats généraux de la police, si vous suivez, il y a maintenant beaucoup d'émissions pour qu'il y ait ce dialogue permanent entre la population et la police qui s'approche de la population pour expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne, mais la population, si tu poses des questions, vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est l'émission qui a précédé avant que nous puissions aborder cette question, mais vous auriez souhaité qu'il y ait ce cadre des discussions, des contacts permanents entre le pouvoir, la police, les organisateurs des manifestations, parce qu'ici vous avez évoqué la question des cultures politiques, la perception. Quand on est dans l'opposition, on considère celui qui gère comme l'ennemi, il faut rejeter d'emblée tout ce qu'il fait. Quand on est au pouvoir, on estime que l'opposant il est l'ennemi quand il veut manifester. Voilà, en fait, c'est un problème de perception. Vous auriez souhaité qu'il y ait un changement d'attitude. Alors, on revient à vous, monsieur le vice-ministre. Vous avez suivi les uns et les autres. Comment vous pouvez réagir par rapport à leur point de vue?
D'accord, merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt et je voudrais apporter quelques éléments à toutes ces préoccupations. Premièrement, j'ai établi la comparaison entre le régime actuel et la Deuxième République pour faire sentir aux gens que la société congolaise s'est réellement transformée en qualité et en quantité en ce qui concerne la matérialisation de la démocratie dans notre pays. Avant, ce n'était pas la démocratie, mais aujourd'hui, c'est la démocratie. Cette comparaison-là est nécessaire pour établir les progrès. Et j'ajoute que tant que le monde existera, tant que la République démocratique du Congo existe, et qu'il y aura toujours des êtres humains, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, jusqu'au dernier jour de notre existence sur cette terre congolaise, nous devons améliorer au jour le jour la situation des droits de l'homme. C'est un travail de chaque jour, c'est un travail de chaque heure, c'est un travail de chaque année. Je voulais apporter cette précision. Là, je reviens sur la situation des prisonniers. Oui, les prisonniers sont des êtres humains. S'ils sont en prison, c'est pour les aider à s'insérer dans la société. C'est pour leur donner un moment de réfléchir et de s'intégrer dans la société. C'est pour leur donner l'occasion de se repentir. Mais aussi, c'est pour protéger la société contre les dangers qu'ils représentent. Parce que parmi les personnes qui sont en prison, il y a des condamnés pour crime et ils présentent un danger contre la société et les personnes. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Mais il y a aussi en prison des personnes qui sont arrêtées à titre préventif parce qu'ils présentent un danger de fuite.
Alors, monsieur le vice-ministre, si vous pouvez permettre, c'est qu'il y a quelqu'un, un dernier auditeur qui s'est ajouté, qu'il dise juste les mots. En 40 secondes, on revient à vous, parce que là, il faudrait que vous puissiez en profiter pour conclure une fois pour toutes. Alors, maître Sonville Talbombachi, on lui accorde la parole rapidement. On revient à vous pour terminer et puis conclure. Maître Sonville, vous êtes avec nous, parce que là, on tend déjà vers la fin de l'émission. On vous écoute.
Oui, monsieur Thérault, je suis avec vous. Moi, je dirais que l'idéal est de respecter la Constitution.
Mm-hmm.
Pour tout ce que, si la Constitution n'est pas respectée, il y aura toujours des violations à violation. Le cas récent, c'est celui du ministre Wando Simba. Vous voyez qu'on lui a privé la liberté de va et vient la liberté de circulation. Son avion, l'avion, c'est un commercial, a été détourné pour d'autres fins. Et il a été indiqué d'effectuer sa descente sur Galerie. Au-delà de ça, monsieur, je voudrais que c'est à Lubumbashi. Il y a même un communiqué qui passe en bande de finances, soi-disant, on suspend même les réunions des salons. Où est-ce qu'on peut arriver à faire des histoires pareilles? Nous vivons dans une république bananière. Quand le maire de Épuy, il a déclaré ça encore. Le maire de la ville avait autorisé une manifestation. Mais cette manifestation a été réprimée avec brutalité. Il y a eu même des arrestations, puisque ces gens ont été participants de manifestations, pas autorisées par le maire de la ville, quand même nous vivons dans un régime d'information. Nous disons que les droits et libertés de citoyens sont violés à tout moment. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Nous voulons que cette situation puisse cesser.
Cesser et qu'il y ait amélioration.
La violation criante des droits et des libertés des citoyens.
Voilà. Voilà, merci. Maître Tonsonville, là, on a qu'une minute pour que l'invité puisse conclure. Vous avez soulevé encore d'autres questions qu'on ne saura pas vider dans cette émission. Monsieur le vice-ministre, on revient à vous après ces derniers auditeurs. Là, on est bousculé carrément par les temps. En une minute, alors, vous avez suivi les uns et les autres. Ce n'est pas la dernière émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors?
Je veux juste dire que les auditeurs et auditrices de la radio au Capi n'oublient pas que nous sommes un pays post-conflit.
Mm-hmm.
Personne n'a donné la chance à ce pays de se voir un jour uni, qu'on pouvait aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, c'est une réalité et nous devons nous en féliciter et féliciter les autorités qui ont pu faire le meilleur des mêmes pour que notre pays soit uni. Les droits de l'homme, le gouvernement a l'obligation d'améliorer la situation des droits de l'homme.
Uh-huh.
Nous allons nous y forcer.
Merci.
Nous allons garantir les libertés d'expression et nous allons garantir la paix.
Merci.
Et la sécurité ainsi que l'ordre public.
Merci beaucoup.
Que les citoyens voilà. respectent le loi.
Uh-huh.
Et respecte toute la Constitution. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Mbosso Kodiampwanga, vice-ministre aux droits humains. Merci de nous avoir donné de votre temps pour commenter ces sujets avec les auditeurs à qui nous disons merci. Ils ont été nombreux, mais les débats et les échanges continuent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions, Eric Sidiakela qui a été avec nous pendant cette semaine. Jérôme Lungembo était à la présentation, à la coordination, mais aussi à la réalisation de ce magazine qui est Pierrot à présenté et réalisé aussi. Julie César a assuré le standard. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures dans Parole aux auditeurs. Merci à Julien Namoini qui était à la supervision. Pour le moment, c'est un agréable week-end que nous vous souhaitons en compagnie des Radio Capi. Au revoir.